France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'un de nos plus grands anthropologues ce soir. David Le Breton est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages. Le tout dernier sort aujourd'hui même. Il est consacré au sourire. Le sourire, un plaisir qui était porté disparu mais qui est de retour.
Ça fait 2 ans et des élèves, je les avais jamais vus sans masque. Ils sont beaux, franchement, ils sont beaux.
David Le Breton poursuit son exploration du corps humain après avoir fait de même pour le visage, la voix, la douleur, la peau et j'en passe. Après s'être intéressé aux conduites à risque également. Il vient d'ailleurs de diriger un ouvrage collectif, Les jeunes au volant. Et dans ce domaine, on sait que le portable est un vrai fléau, y compris sur l'autoroute.
En général, ils se mettent sur la voie du milieu, ils roulent doucement, en zigzagant, quoi. Et bon, quand on les double, on voit qu'ils sont au téléphone, quoi.
Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et la chronique « Jeu de pouvoir » de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1 ce soir, à 9 jours du premier tour de la présidentielle. Quel scénario en cas de match retour Macron-Le Pen au second tour ? À 19h, le journal de Corinne Audouin. À 19h20, le téléphone sonne, consacré ce soir aux risques majeurs, qu'ils soient naturels, industriels, terroristes ou même militaires. Quelle préparation, quelle implication pour les citoyens que nous sommes? Vous pouvez déjà appeler le 01 45 24 7000. Nos standardistes attendent vos appels. Magdalena Hervada, elle lit vos mails. D'avance, merci à tous, ainsi qu'à Michel Bézikian, Selim Guéribi et Sofiane Aktib qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir David Le Breton.
Bonsoir Claire Servageant.
Bienvenue à France Inter, merci d'être avec nous en ce 1er avril, jour du sourire et des bonnes blagues, on en dira peut-être un petit mot. Vous êtes, je le disais, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, auteur d'un nombre incalculable de livres d'anthropologie. Vous êtes intéressé à tout, la peau, la voix, la douleur, la marche, le rire. Et vous revoilà aujourd'hui avec ce livre publié aux éditions Métellier. Son titre, Sourire, et ce sous-titre, Une anthropologie de l'énigmatique. Comme toujours, c'est un livre riche, accessible, truffé de références littéraires et cinématographiques. Alors, première question, pourquoi ce mot énigmatique à propos du sourire, David Le Breton ?
Eh bien parce que justement, le sourire ne va pas de soi. On peut avoir le fantasme que quand on sourit, c'est qu'on est heureux, on est content, un peu de la même manière. Quand on rit, on serait dans la joie. Et dans mon livre sur le rire, j'avais justement déconstruit cette idée que le rire était uniquement associé au plaisir. Et j'ai voulu poursuivre le même travail, finalement, pour montrer que le sourire pouvait être aussi associé à des significations extrêmement différentes, et parfois même des significations d'hostilité. Par exemple, le harcèlement peut se faire avec un sourire moqueur, narquois, méprisant. Bon, il y a aussi d'innombrables autres formes de sourire. On peut sourire aussi pour faire face à une mauvaise nouvelle, par exemple. Évidemment, il y a les sourires d'acquiescement, les sourires de plaisir aussi, les sourires mondains qui sont aussi souvent très présents. Enfin, il y a 1000 formes de sourire et donc dans mon travail, j'ai essayé d'explorer ces formes différentes. D'où cette idée du sourire comme d'une énigme à déchiffrer.
En tout cas, vous le dites bien, le sourire n'est pas subordonné au rire, c'est pas un sous-rire.
Non, vraiment pas du tout, parce que le rire, on peut dire, il est du côté du corps. C'est-à-dire qu'il est, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Église l'a tellement combattu pendant longtemps, quand on rit finalement, on a le corps qui se disloque, entre guillemets, on s'agite en tous sens, on a les mains, les bras...
On ne maîtrise plus vraiment la situation,
c'est ça ? On ne maîtrise plus vraiment, voilà. Et puis le visage est aussi complètement déconstruit, il est défait. Et d'ailleurs, les ennemis du rire disaient que les personnes étaient défigurées quand ils riaient. À l'inverse, le sourire est une spiritualisation. Donc autant le rire est du côté du corps, autant le sourire est du côté du visage, et le visage, c'est l'élévation, c'est la spiritualité, d'où le fait que dans les mondanités, dans l'Église, autrefois, dans les rites d'interaction, le sourire était privilégié au détriment du rire.
Vous dites d'ailleurs, dans les représentations sociales, le rire est toujours un rabaissement.
Oui, il est souvent un rabaissement, pas toujours, hein. Il peut être aussi une forme d'acquiescement, mais le sourire est davantage une forme de complicité, de connivence, d'hospitalité à l'autre, d'accueil de l'autre.
En tout cas, vous le disiez, le sourire est multiple, il n'est pas toujours gentil, pas toujours bienveillant. Vous déclinez les différentes sortes de sourires, le sourire de l'assassin, le sourire des amants. Très beau, hein, dans le visage de la personne aimée, un appel, un mystère et le mouvement d'un désir toujours renouvelé.
Oui, les amants se regardent souvent avec ce sourire. Cette manière justement d'essayer d'atteindre l'âme, entre guillemets, de l'autre. On a sans doute aussi ce fantasme que le sourire, c'est vraiment une voie d'entrée dans l'âme, dans l'intériorité, en tous les cas, de l'autre. Vous voyez la différence du rire, parce que là, jamais on associerait le rire à la spiritualité, à l'intériorité. C'est au contraire l'extériorité.
Il y a beaucoup de références, hein, je le disais, dans votre livre, notamment celle-ci qui est tirée du film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Rencontre entre Pierre Brasseur et Arletty, on y va rien que pour le plaisir.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet homme?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir. Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous avez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Hein, oui. 1945, ça a pas pris une ride, si j'ose dire. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas l'image, là, David de Breton, oui, mais on entend le sourire. Ça veut dire quoi? C'est que le sourire, il passe par la voix aussi.
Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est l'expérience que nous avons fait depuis 2 ans, finalement, où notre visage était dissimulé derrière le masque. Donc, à mon avis, le sourire est absolument invisible, évidemment. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, qu'on peut lire le sourire dans les yeux. Non, ça n'a vraiment aucun sens, parce que le sourire implique le visage en son entier. Il faut le nez, il faut les lèvres, il faut les joues, etc. En revanche, quand on avait l'impression que l'autre masqué devant nous souriait, c'est qu'on entendait dans sa voix cette forme d'accueil, de bienveillance, d'hospitalité, de plaisir. Et on en induisait que la personne souriait. Mais derrière le masque, c'était impossible de savoir si la personne grimaçait, bâillait, manifestait une colère ou souriait.
Alors justement, vous m'amenez au Covid, on reviendra sur le sourire en général tout à l'heure. Il y a quand même une curiosité dans votre livre, c'est qu'il y a 2 pages seulement qui sont consacrées au sourire au temps du Covid, David Le Breton. Comment ça se fait?
Ah, parce que j'avais dit énormément de choses. J'ai dit énormément de choses sur le sourire avant
et
après.
Oui, plein de choses.
Donc, oui.
Mais c'est vrai que ça a été une expérience tellement, tellement incroyable. Oui. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs quelques propos d'enseignants et d'élèves, d'écoliers d'abord. Paroles d'écoliers qui ont été recueillies par Sarah Ders de France Bleu Poitou dans une école du centre de Poitiers. C'était juste après la levée de l'obligation du port du masque, le 14 mars, c'est tout récent.
Ça fait un peu bizarre au début de voir ma maîtresse sans masque.
Bah moi j'ai bien aimé revoir les sourires et revoir la maîtresse sans masque.
Elle avait une bouche un peu plus large.
Pour moi le maître il avait un gros nez mais en fait il y en a un petit. Bah je suis pas habituée à les voir comme ça.
Voilà, et les enseignants aussi ont découvert le visage de leurs élèves. Écoutez, cette professeure de musique de Landrecies au micro de Rafaela Vicente de France Bleu Nord.
C'est vraiment très agréable de retrouver d'autres émotions que simplement celles qu'on pouvait lire dans leurs yeux. Dans mon cours, on travaille sur les émotions. On doit justement apprendre à verbaliser les émotions qu'on ressent à travers une œuvre et des fois détecter leurs émotions sur le visage me permettait avant d'aller les chercher et les encourager à mettre un mot sur ce qu'ils avaient ressenti. Et là, bah, ça faisait 2 ans que je voyais plus ça. Et là, c'est bien de retrouver des visages. Et puis moi j'en ai découvert hein, parce qu'en fait ça fait 2 ans et des élèves je les avais jamais vus sans masque. Ils sont beaux, franchement ils sont beaux.
Tout est dit dans ces paroles d'écoliers et de cette enseignante.
Oui, tout à fait. Je pense que l'une des expériences les plus déconcertantes de mon histoire, c'est d'avoir fait des cours à la fac devant des étudiants masqués. Moi-même étant masqué dans les premiers temps, en tous les cas, où il y avait un règlement intérieur assez strict, et puis en même temps, on avait peur évidemment de contaminer les autres. Et je me souviendrai toute ma vie de ces heures de cours dans une énigme totale. C'est-à-dire, vous ne voyez absolument pas du tout la résonance de vos propos sur le visage des étudiants. Vous ne savez donc absolument pas si ça passe ou si ça casse. Et vous surcompensez à travers votre voix et vous sortez absolument épuisé. Et c'est seulement à la fin du cours, quand les étudiants viennent vous voir et vous posent des questions, etc., que vous comprenez que finalement, ça s'est quand même très très bien passé. Mais c'est une expérience très très pénible pour un enseignant, en effet.
Globalement, vous le dites, le port du masque défigure le lien social.
Pour moi, oui, parce que finalement, d'abord l'éthique, évidemment, ça commence par le visage, par la reconnaissance du visage de l'autre, par le fait qu'on peut le regarder dans les yeux, parce qu'on n'a pas honte, on peut soutenir son regard. Et puis parce que dans la conversation, évidemment, on suit en permanence la résonance de nos propos sur le visage de l'autre, à travers les mimiques qui le traversent. Donc effectivement, il y avait une forme de défiguration. On a vécu, curieusement, un monde presque sans visage pendant 2 ans.
Et un monde donc sans sourire.
Et un monde sans sourire.
Pour en revenir à tout ce que vous dites dans ce livre, David Le Breton, le sourire est-il culturel ?
Ah oui, il est éminemment culturel. D'ailleurs, il s'apprend. Il y a parfois des enfants qui ont du mal à apprendre à sourire parce qu'ils grandissent dans des familles qui sont plutôt maussades. Mais bon, on voit, quand on voyage d'ailleurs, on voit bien comment le sourire peut être incroyablement prodigue dans certaines sociétés, à l'inverse, extrêmement rare dans d'autres. Ça a été l'une de mes grandes expériences de voyageur quand j'étais plus jeune, de me balader dans des sociétés africaines et de voir que tous les gamins, par exemple, me souriaient, que énormément de gens me souriaient, on me souhaitait bonne arrivée, etc. J'ai revécu ça après en Inde, au Sri Lanka, au Népal, au Japon, avec des gens qui sont toujours incroyablement souriants, des enfants d'ailleurs aussi qui soutiennent votre regard en souriant, même s'ils ont 3-4 ans, ils n'ont pas peur de l'étranger.
Il y a même des endroits où c'est une obligation de sourire.
Oui, alors là, on est plutôt dans des contextes politiques un peu durs, je pense aux images de la Chine maoïste, par exemple, avec ces images qu'on a tous en tête, avec ces jeunes qui regardent l'avenir radieux, avec un sourire lumineux. C'était un peu pareil dans l'Union soviétique d'autrefois, bon, c'est pas...
Et ici, pour revenir en France, c'est plutôt dans les relations mondaines, vous dites, le sourire est de mise.
Oui. Oui, d'ailleurs, il est souvent très difficile à porter. J'en donne un certain nombre d'exemples pour des personnes qui ont des responsabilités sociales, pour des comédiens, par exemple des stars, qui sont dans une obligation permanente de sourire. Il y a aussi, d'ailleurs, un certain nombre de métiers où le sourire est obligatoire. Je cite, d'ailleurs, cette hôtesse de l'air d'une grande compagnie américaine, un voyageur lui dit « mais vous ne souriez pas ?» et la femme lui dit « écoutez, je vais sourire, mais souriez d'abord ». L'homme sourit et puis elle lui dit « maintenant, essayez de maintenir ce sourire pendant 8 heures ». Et elle s'en va paisiblement, voilà. C'est une très belle leçon sur le fait qu'en effet, le sourire peut être aussi une forme de violence. Il est imposé dans certains métiers pour l'accueil.
Et puis alors, il y a des endroits où longtemps, on a dit qu'il ne faut pas sourire. Par exemple, les défilés de mode, c'est vrai que c'est une curiosité. Le visage complètement fermé des femmes, notamment, lors des défilés. Oui. Pourquoi ? C'est pour qu'on regarde les vêtements ?
Oui, c'était très étrange. C'était une manière, finalement, de faire disparaître la femme, la beauté de la femme, uniquement pour le privilège des vêtements. C'est Sonia Riquel, et la fille plutôt de Sonia Riquel, qui ont introduit plutôt le fait que les mannequins devaient être également dans la jubilation de montrer des beaux vêtements, etc. Elles devaient montrer leur plaisir. Et ça a un peu révolutionné, en effet, les défilés de mode.
Parce que globalement, la femme doit sourire, ça vous le dites bien, mais attention à pas trop rire.
Oui, alors là, c'est vrai que le rire est plus masculin, entre guillemets, que le sourire qui renvoie davantage à la grâce, etc., et qui aurait donc une connotation plus féminine.
Et d'ailleurs, vous dites que les femmes, elles mettent la main devant la bouche, quand elles se mettent à rire, plus que les hommes, en tout cas.
On le voit souvent, d'ailleurs, dans les spots publicitaires, où on voit une femme qui rit parce qu'elle est émerveillée de voir une marchandise qui l'émeut. Et donc, quand elle rit, elle va, en effet, mettre sa main devant sa bouche parce que le corps d'une femme ne s'ouvre pas. Le corps d'une femme doit demeurer fermé jusqu'au... Alors que l'homme peut rire à belles dents s'agiter dans son rire. Ça fait partie de sa virilité, entre guillemets, ou en tous les cas de ce qui reste des anciens stéréotypes de genre dans nos sociétés.
Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses à étudier, effectivement, sur le sourire. C'est ce que vous faites dans ce livre. J'aime beaucoup la phrase aussi, vous dites « si le sourire désarme, c'est qu'il est une arme blanche ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, effectivement, il y a parfois des manières de de désarmer la violence à travers un sourire qui déconcerte complètement l'agresseur, qui ne sait plus très bien sur quel pied danser. Et c'est parfois une forme de sauvegarde. Ça marche pas toujours, bien entendu, mais ça peut fonctionner, oui.
Beaucoup de choses dans ce livre. Ça s'appelle Sourire, une anthropologie de l'énigmatique aux éditions Métellier. David Le Breton, on va poursuivre nos réflexions tout à l'heure, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine. Grâce à ce mix mis en onde par Anne-Cécile Perrin, à la une, et bien évidemment, l'avant-dernière semaine de campagne avant le premier tour, marquée par une polémique sur les cabinets de conseil privés.
Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal.
Emmanuel Macron, excédé par les révélations de la commission d'enquête sénatoriale sur le recours aux cabinets de conseil privés, sujet sensible en pleine campagne présidentielle.
Ce qui est extravagant dans la réaction d'Emmanuel Macron sur McKinsey, c'est que il résonne en pénal, mais moralement, ça le choque pas.
Comme Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot s'indigne.
Les McKinsey qui font les politiques publiques à la place des hauts fonctionnaires et des élus, on les mettra dehors. Nous ferons une grande loi de séparation des lobbies et de l'État.
Valérie Pécresse, elle, préfère insister sur un autre aspect du dossier.
Est-ce que c'est normal d'avoir autant de marchés publics alors qu'on ne paye pas ses impôts en France? La fraude, c'est du vol. Les Français ont besoin de récupérer cet argent.
Vous êtes en train de faire de ce rassemblement du Trocadéro la plus grande démonstration de force de cette campagne.
On est chez nous, crie la foule au meeting d'Éric Zemmour. Autre variante. Macron assassin lorsque le candidat égrène des faits divers particulièrement tragiques. Mais l'intéressé dit ne pas avoir entendu. Alors le président ironise en lui conseillant des prothèses auditives.
J'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais.
Mais pour Anne Hidalgo, l'essentiel n'est pas là.
Ce qui menace vraiment notre pays, c'est pas un grand remplacement de population, pas du tout. C'est un grand remplacement de valeurs.
Marine Le Pen, en forme dans les sondages, peut même se permettre de sermonner son frère ennemi de l'extrême droite.
Je regrette cette fuite en avant d'Éric Zemmour qui, je crois, perd de vue l'intérêt général.
Mais le président candidat n'est pas dupe.
L'extrême droite a ses alliés utiles, parce que ça finira en tandem cette affaire, on sait bien comment ça se passe.
Jean Lassalle, lui, a déjà prévenu le chef de l'État que ce n'était pas gagné d'avance. Alors il lui donne ce conseil.
Monsieur le Président, qui serait beaucoup mieux inspiré de venir faire un peu campagne.
Ça tombe bien, c'était justement prévu lundi du côté de Dijon.
Bonjour monsieur.
Les 18 centimes que vous promettez sur le gasoil, oui. Mais c'est ridicule.
Ça fait 22 ans que je suis auxiliaire de vie, j'étouffe avec le prix du gasoil.
Une baisse de 18 centimes, donc par litre, à compter de ce vendredi 1er avril.
C'est dérisoire.
Nathalie Arthaud.
Il faut déjà une véritable augmentation de salaire. 300, 400, 500 euros d'augmentation de salaire, de pension de retraite aussi.
Le social au cœur du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Marseille dimanche, les yeux toujours rivés sur les sondages.
Monsieur Macron, c'est le programme économique de Madame Le Pen, plus le mépris de classe.
Le candidat de l'Union Populaire redoute d'assister au match retour de 2017 avec appel au Front Républicain.
La main sur le cœur, le roi des castors appellera à faire barrage. Et tout le poulailler lui pardonnera d'avoir plumé la volaille pendant 5 ans.
Alors il continue d'appeler au vote utile sans le dire, ce qui a le don d'agacer Fabien Roussel.
J'entends tout là depuis quelques jours. Vote utile, vote efficace, vote responsable, vote intelligent, vote concret. Ça va quoi.
Même ras-le-bol pour Philippe Poutou.
On en est même à voter pour le moins pire, hein. Puis les sondages qui nous gavent tous les jours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui expliquent en fait que les gens s'éloignent de l'élection.
Les sondages qui montrent surtout que rien n'est joué à un peu plus d'une semaine du premier tour. Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Vous avez entendu les 12 candidats. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous le même nombre de secondes, exactement. Mais voilà, on reviendra, je le précise tout à l'heure, sur la présidentielle avec la chronique de Vincent Martini. On est donc toujours en compagnie de l'anthropologue David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'université de Strasbourg. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter ce qu'on vient d'entendre, David Le Breton. Pas beaucoup de sourire dans la voix de tout ce qu'on a entendu.
C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais qu'on en revienne au Covid dont on parlait il y a quelques minutes, parce que c'est vrai que cette pandémie a été un électrochoc, elle a changé nos rapports aux autres dans bien des domaines. Il y a eu le travail à distance, on est dans un monde plus virtuel qu'avant, c'est quelque chose de durable ou pas d'après vous?
Oui, c'est l'un de mes regrets, effectivement, c'est que ça a énormément banalisé le recours au virtuel. Avant le Covid, pour ma part, par exemple, je n'avais jamais utilisé ce système. Je n'avais jamais fait la moindre conférence. Et depuis 2 ans, j'en suis à des dizaines et des dizaines et des dizaines, parce que ça paraît commode, effectivement. Mais en même temps, c'est tellement frustrant, finalement, de ne pas rencontrer nos interlocuteurs en face. La face, c'est justement le visage, parce qu'on a des petites vignettes à droite et à gauche de notre ordinateur. Donc on ne sait pas, quand on fait une conférence, par exemple, ou quand on parle, on a du mal quand même à lire sur le visage de l'autre la manière dont il reçoit nos propos. Voilà, pour moi, c'est un peu un recul, justement, de cette dimension un peu corporelle, finalement, de notre condition humaine. Ça renvoie aussi à l'idée d'un éloignement du corps, d'un mépris du corps que j'ai analysé ailleurs. Mais...
Alors, un mépris du corps avec des relations à distance, et dans le même temps, un narcissisme exacerbé, parce qu'on se met en scène avec les écrans pour un oui ou pour un non, David Le Breton. On montre son repas avant de manger, montre son dernier tatouage, on montre tout.
Oui, ça c'est plutôt les réseaux sociaux, alors effectivement, oui.
C'est les écrans.
Les écrans qui sont une mise en valeur de soi, une narcissisation à outrance, qui renvoie finalement à une société où l'individualisation du lien social va de plus en plus loin. Quoi. Il y a même une hyper-individualisation aujourd'hui, qui fait qu'on est de moins en moins ensemble, on est de plus en plus côte à côte, parfois des solidarités provisoires et d'intérêts se mettent en place, mais qui sont très vite débordé par d'autres solidarités d'intérêt. C'est vrai que le lien social, en ce moment, il est quand même assez mis à mal, à mon avis.
Vous dites c'est la fin de la conversation.
Ça, c'est l'une de mes peurs, effectivement. Ça nous arrive quand même à tous, de plus en plus souvent, de commencer une conversation avec quelqu'un qui sort tout d'un coup son portable, qui sort son portable toutes les 30 secondes, ou bien le téléphone sonne et la personne vous laisse tout d'un coup seule, en attendant qu'elle ait passé son coup de fil ou envoyé son SMS. C'est pour ça que j'ai l'impression parfois que la conversation risque de devenir anachronique dans les années à venir, en tous les cas, au profit de la relation à distance, sans corps, sans visage, avec uniquement la voix.
Alors, les portables, c'est vrai, ont changé considérablement les choses, et on en vient maintenant à ce deuxième livre que vous publiez, un livre collectif que vous avez dirigé pour le compte de la Fondation Vinci aux éditions RS, Les Jeunes au Volant. Vous avez beaucoup travaillé sur les conduites à risque, et on va voir avec ce reportage de Valentin Plat de France Info à quel point, effectivement, c'est dangereux sur l'autoroute. Reportage avec des patrouilleurs, notamment.
Répondre à des appels, des mails, des SMS ou être en visioconférence tout en roulant, c'est ce que Milan, 22 ans, fait souvent. La pression de son travail et de ses patrons le pousse à adopter des gestes dangereux.
Les clients, pour leur disponibilité, parfois il faut les appeler, des messages importants, ou quand les patrons ils appellent, on évite de décrocher.
Julie rentre justement du travail et s'arrête dans une aire de repos pour passer un coup de fil. Elle se souvient d'une réunion en visioconférence avec un des participants légèrement distrait.
J'avais une réunion et en fait la personne était au volant, mais c'était normal. C'était notre manager en plus, donc voilà, pas forcément notre travail de lui dire quoi faire et on savait pas trop pourquoi il faisait ça.
Des conducteurs avec le téléphone à la main, Laurent Barzac en compte des dizaines chaque jour. Il est patrouilleur pour la SANEF depuis plus de 30 ans. Alors maintenant, en un coup d'œil, il sait si l'automobiliste utilise son téléphone.
En général, ils se mettent sur la voie du milieu, ils roulent doucement, en zigzagant, quoi. Et bon, quand on les double, on voit qu'ils sont au téléphone. Quoi.
Laurent sillonne les autoroutes avec son camion pour assurer la sécurité des usagers et quelques minutes après le début de sa tournée, il remarque un premier imprudent.
Vous voyez, on le voit, là il est à cheval entre deux voies, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas... Il suffit que devant ça freine, ça peut être aussi catastrophique.
Alors le patrouilleur tente de prévenir le conducteur de son mauvais comportement.
Des fois on les double, on leur tend un petit coup de klaxon, en essayant de leur faire comprendre. Bon, il y en a, ils cachent le téléphone, il y en a, c'est tout autre chose, on va avoir jusque même un doigt d'honneur. C'est pour leur bien quoi, mais bon, eux ils se disent, on fait ce qu'on veut. Hein.
Ces salariés qui télétravaillent sur la route, ça exaspère Jean Paul, chauffeur poids lourd depuis une vingtaine d'années.
Si les gens sont assez bêtes pour faire du visio quand ils roulent, c'est leur problème. S'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur les routes pour faire des choses pareilles, à un moment donné, on appelle ça c'est de l'éducation.
Utiliser son téléphone tout en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident, mais cela peut aussi coûter cher en cas de contrôle routier. Compter 135 € d'amende et 3 points en moins sur le permis de conduire.
David Le Breton, je vous voyais un peu consterné sur certains extraits de ce reportage.
Oui, parce que c'est vrai que dans l'enquête que nous avons menée, avec 150 entretiens quand même relativement approfondis, on s'aperçoit qu'il y a une grosse majorité de ces jeunes qui est parfaitement lucide sur les dangers du recours au numérique en voiture, mais qui vous disent « je sais bien, mais quand même, je sais que c'est dangereux, mais je ne peux quand même pas ne pas répondre instantanément quand je reçois un SMS ou autre ». Il y a une énorme ambivalence, évidemment, que les jeunes générations payent très cher, puisqu'elles sont les plus vulnérables, finalement, au volant. C'est elles qui payent le plus lourd tribut en matière d'accidentalité, en matière de morbidité, de mortalité aussi.
Vous rappelez, 11 jeunes de 18 à 24 ans perdent la vie sur les routes, en moyenne, chaque semaine, dans notre pays. Et vous notez une chose, les garçons sont surreprésentés dans les accidents.
Oui, là aussi on retrouve finalement des formes un peu euphémisées de rites de virilité finalement. Montrer que le code de la route, on n'en a rien à faire, qu'on maîtrise la vitesse, on humilie entre guillemets les autres conducteurs. Enfin, il y a pour beaucoup d'ados, souvent de jeunes en tous les cas, qui sont souvent d'ailleurs mal dans leur peau, mais pas toujours. Il y a une démonstration de force, quoi, qui les rend effectivement beaucoup plus vulnérables, sans compter les rodéos, qui sont aussi une autre manière de mise en valeur de soi dans certains quartiers.
Alors, dans ce livre que vous avez dirigé, hein, qui s'appelle donc les jeunes volants, vous vous êtes intéressé aussi à la reproduction des comportements des parents. Oui. Et comme pour le reste, les jeunes reproduisent des comportements, pour certains, et d'autres, oui, au contraire, les rejettent.
Oui,
on a les deux situations.
Tout à fait. C'était là, d'ailleurs, l'un des points de départ de l'enquête, parce qu'il y avait le sentiment que les enfants reproduisaient finalement les comportements de leurs parents, et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Je me disais, il y a trop de médiation entre les parents et les enfants, et c'est ce que l'enquête a montré, finalement. Il y a aussi l'influence des frères, des sœurs, des amis, des grands-parents, des moniteurs d'auto-école qui jouent un très très grand rôle évidemment pour les jeunes. Donc on s'aperçoit que finalement c'est plutôt la manière dont le jeune va se débrouiller de toutes ces influences qui pèsent sur lui, sans compter, j'ai oublié de vous dire, qu'il y a aussi une critique de la conduite du père ou de la conduite de la mère. Donc déjà il n'y a pas une univocité, voilà, c'est pas du tout uniforme. Il trouve que la mère conduit mieux que le père ou inversement. Bref, il n'y a aucune donc transmission immédiate de la manière de conduire des uns sur la manière des autres.
En tout cas, ça illustre bien la prise de risque de certains. Les jeunes au volant, c'est aux éditions RS. Il est déjà 18h44 sur France Inter.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Et il est l'heure de retrouver Vincent Martini pour sa chronique. Vincent Martini, bonsoir.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Professeur de sciences politiques et chroniqueur donc à l'Hebdo Le 1. Ce soir, vous posez la question suivante, Vincent. Si Marine Le Pen venait à se qualifier pour le second tour de la présidentielle, assisterait-on à une simple redite de 2017?
C'est la question qui monte alors que la candidate du Rassemblement National a pris le dessus sur son concurrent d'extrême droite, Éric Zemmour, et pourrait gagner le match du second tour contre Jean-Luc Mélenchon à une semaine du scrutin. Elle en appelle une autre question plus fondamentale. Marine Le Pen pourrait-elle ensuite remporter l'élection? Alors, on pourrait défendre l'idée que sur le papier, elle n'a aucune chance de l'emporter. Et pourtant, 2022 pourrait ne pas ressembler à 2017.
Pourquoi donc?
D'abord, à cause du contexte. La pandémie de Covid-19, puis la guerre en Ukraine et ses effets sur l'économie française tendent à légitimer le programme de Marine Le Pen, axé sur la défense de l'État social et la souveraineté économique, des thématiques qui prennent dans l'électorat populaire et auprès d'une partie des classes moyennes. Et là, l'effet de comparaison avec le programme d'Emmanuel Macron joue au détriment du président sortant, qui a décidé de tourner le dos, quoi qu'il en coûte, pour renouer avec un programme très libéral. Alors, vous me direz que ce décalage existait déjà durant la précédente campagne. Sauf que, aujourd'hui, Marine Le Pen a opéré un déplacement stratégique sur certaines questions qui empêchaient jusqu'ici les électeurs de droite de porter leur voix sur elle. L'Europe, d'abord, elle a renoncé au Frexit et à l'abandon de l'euro. L'économie, puisqu'elle défend en même temps la baisse des impôts et les services publics. Et même les questions sociétales, alors qu'elle dit accepter aujourd'hui la PMA et le mariage pour tous. Toutes ces dimensions se conjuguent à une image moins polarisante, en grande partie grâce à la candidature d'Éric Zemmour, qui, par sa radicalité sur les questions d'immigration et d'identité, a permis à Marine Le Pen d'apparaître plus modérée sur ces questions.
Et ça, là, pourrait-il conduire à une union des droites en faveur de Marine Le Pen?
Sans aller jusque-là, le bon report de voix des soutiens d'Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, voire de Valérie Pécresse, pourrait souder les droites par leur base. Sans compter une autre idée, c'est qu'en 2017, la question du deuxième tour avait été de voter pour ou contre Marine Le Pen. Or, après 5 ans de pouvoir du président sortant, les électeurs pourraient bien être tentés par un tout sauf Macron aux effets électoraux dévastateurs. Cette tentation, elle est alimentée par la non-campagne du président candidat, mais aussi par l'hostilité que sa personnalité génère, notamment dans l'électorat de la France insoumise, puisque entre un quart et un tiers de celle-ci seraient prêts à se reporter sur Marine Le Pen pour faire barrage à Macron.
L'électorat de gauche est pourtant stratégique pour le second tour.
Absolument, parce que c'est l'électorat potentiellement le plus tenté par l'abstention. Une faible mobilisation de la gauche au second tour aurait pour effet de favoriser mécaniquement l'extrême droite. Alors qu'au contraire, s'il acceptait de voler au secours d'Emmanuel Macron, alors les chances de Marine Le Pen s'en trouveraient grandement amoindries. Reste donc à savoir si les électeurs de gauche ne seront pas lassés de voter, élection après élection, pour sauver un système politique qu'ils rejettent et qui leur est fondamentalement défavorable.
Merci beaucoup Vincent Martignon. On vous lit dans le 1, version longue aussi de cette chronique. Encore une semaine de campagne, il peut se passer beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Merci mille fois. On poursuit cette émission avec David Le Breton après une petite balade musicale au Brésil. Et c'est pas par hasard.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita trito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba nejo, apago brejo, tem ferro, tem glória, groove, Maiara e Maraíza. E ou
sem samba não dá, sem samba não dá, sem
e ou tem Djonga com Rogério, tem Lucy Cabelinho. Tem Pacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá. Tem Bacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Teseza Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho Quandidá, 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 Quandidá, Quandidá. Olho pro Cristo ali no Corcovado.
Caetano Veloso, Sem Samba Nauda. Excusez-moi pour l'accent. En tout cas, c'est un titre qui a été choisi pour vous par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Pardonnez-moi David Le Breton d'avoir si mal prononcé tout ça. Je sais que vous connaissez très 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 bien le Brésil, c'est fait pour vous. Je veux quand même rappeler que vous êtes né au Mans en 1953, que vous avez grandi dans une famille qui n'était pas une famille d'universitaires. C'était pas du tout ça, plutôt un milieu ouvrier,
oui.
Modeste. Vous avez fait des études de sociologie à Tours et puis oui. Vous avez voyagé. Hein.
Oui.
Et quand je dis voyager, c'est plutôt bourlinguer. Hein.
Oui.
En Europe, en Amérique du Sud, on était quoi, dans les années 70 ?
Plutôt les années 80, fin des années 70, début des années 80.
Quand ouais. Tout le monde allait à Katmandou, vous avez choisi plutôt l'Amérique du Sud ?
Oui. Oui, bon, c'était l'époque des dictatures, hein. Donc j'étais très très mal dans ma peau. J'avais ce fantasme finalement d'essayer de servir à quelque chose, que ma vie a un sens. Je suis parti au Brésil avec l'idée de combattre la dictature. Très vite, je me suis rendu compte de ma dérision en rencontrant des jeunes de mon âge qui avaient été torturés, qui avaient été emprisonnés. Alors je me suis rabattu sur l'autre fantasme que j'avais et qui donnera un jour mon livre Disparaître de soi, c'est-à-dire l'Amazonie, qui me paraissait un lieu idéal pour ne plus exister, quoi, pour disparaître. Et voilà. Puis finalement, j'ai traversé l'Amazonie et puis je suis rentré. J'ai décidé de vivre. J'ai décidé de terminer mes études, mon doctorat en sociologie avec Jean Duvigneault, et puis d'être un sociologue simplement engagé dans son temps. Voilà.
Et un sociologue qui est arrivé à Strasbourg en 1989. Vous enseignez là-bas depuis cette date-là, strasbourgeois d'adoption, comme on dit. Mais vous avez pris goût à cette ville, à cet endroit.
Oui, d'autant plus que j'ai été quand même nommé professeur. C'était en 92-93 à Nanterre, qui était quand même une très grande université, très belle université. Mais c'est vrai que je n'ai eu de cesse de retourner à Strasbourg. J'y suis revenu en 95 pour ne plus jamais quitter la ville.
Vous avez publié, David Le Breton, un nombre incalculable d'ouvrages. Je ne sais pas, depuis 1982, puisque le premier date de 82. Une cinquantaine, une soixantaine, peut-être. Ah, même un roman.
Oui, si vous incluez les ouvrages collectifs que j'ai pu coordonner, oui, on arrive à peu près à ça. Mon premier livre, c'est vrai, c'était un roman, c'était La danse amazonienne, c'était en 1982. Et j'en ai écrit d'autres. D'ailleurs, j'ai écrit aussi un roman policier aux éditions Métellier, Mort sur la route.
Et vous dites, si j'écris autant, c'est pour ne pas devenir fou. C'est vrai, ça?
C'est vrai que quand j'étais très très mal dans ma peau, quand j'étais plus jeune, et notamment sur les routes du Brésil, que j'arpentais avec mon sac à dos en stop et en marchant, etc., tous les jours j'écrivais. C'est-à-dire, je cite souvent la phrase d'Elias Canetti qui me va comme un gant et qui disait « Au bord de l'abîme, il s'agrippe à ses crayons ». J'étais exactement comme ça, j'étais au bord de l'abîme, et tous les jours j'écrivais ce que j'appelais à l'époque le livre du cri. C'est-à-dire avec un jeu de mots, écrire, crier, vous voyez, c'est la même, sans les mêmes lettres. Et puis voilà, de jour en jour, bah, je continuais à écrire. J'étais complètement paumé, mais...
Est-ce que vous avez un lieu de prédilection pour écrire? Un endroit précis?
Non, j'écris partout, tout le temps, dans les trains, même dans les files d'attente, à la limite.
Alors vous avez une passion pour l'écriture, on a bien compris. Vous en avez une pour la marche aussi.
Oui.
D'ailleurs, vous avez écrit sur la marche. Plusieurs ouvrages, Éloge de la marche, Marcher la vie, Un art tranquille du bonheur. Vous marchez où quand vous êtes dans votre est?
Ah ben, on marche dans les Vosges, évidemment, du côté surtout de Saint-Dié, qui est une région très belle, très un peu oubliée entre guillemets, au détriment en profit plutôt des Hauts-de-Vosges, qui voit une masse de touristes, de marcheurs, de skieurs, etc. Moi, j'aime particulièrement cette région autour de Saint-Dié, Baccarat, Raon-l'Étape, etc., qui offre tellement de très beaux sentiers, paisibles, tranquilles, où il y a beaucoup moins de monde d'ailleurs.
Vous dites marcher, c'est perdre son temps avec élégance. C'est beau.
Oui, c'est une manière en tous les cas de se retrouver, de vivre dans une sorte de générosité à l'égard du monde, de gratitude aussi envers les forêts, envers les paysages, les ruisseaux, les lacs. Voilà.
Alors, David Le Breton, on va terminer cette émission comme on l'avait commencé, en évoquant le sourire, parce qu'on est le 1er avril, le jour des bonnes blagues, le jour où les journalistes s'autorisent à inventer n'importe quoi, et dans ce domaine, plus c'est gros, plus ça passe. Exemple avec nos confrères de France Bleu Périgord, où il n'est pas question de déroger la tradition. Ce matin, ils ont annoncé à leurs auditeurs une invention révolutionnaire, un détecteur de champignons. C'est un reportage d'Emmanuel Claverie sur ce champi-détecteur.
5-6 morilles.
Impossible d'échapper au dispositif. L'appareil ressemble à s'y méprendre, à un détecteur de métaux.
Et vous allez voir, ça va s'affoler très très rapidement. Regardez.
Laurent n'arpente les bois de Douzillac que depuis quelques secondes, quand tout à coup...
Et ben voilà, on a trouvé 5-6 morilles.
Impossible d'échapper au dispositif. C'est Jean-Pierre Pruvé qui en a eu l'idée. Cet ingénieur s'est fondé pour cela sur les fréquences émises par les champignons lors de leur pousse.
Bah, en fait, vous avez dessus un petit bouton. Selon le type de champignon, vous allez pouvoir sélectionner. Par exemple, pour la morille, quand elle pousse, elle a une fréquence d'environ 27 Hz. Donc, ce qui est très différent des autres champignons. Pour le cèpe, lui, c'est plutôt aux alentours des 73 Hz. Donc, après, vous sélectionnez dessus. Et comme chaque champignon dispose de sa propre fréquence, bah, vous suivez l'appareil, il vous indique indique, puis vous suivez. Quoi.
Une invention qui ne réjouit pas Daniel Lacombe de la Société mycologique du Périgord.
C'est dommage parce qu'on ne retrouvera pas ce plaisir de rechercher les champignons, d'essayer de les trouver, de les découvrir. La beauté du bois aussi, c'est dommage.
La production du champi détecteur vient tout juste de débuter. L'appareil devrait être disponible à la vente juste avant l'automne.
Ce qui est marrant, David Le Breton, c'est que tout le monde joue le jeu dans cette affaire.
Oui, d'ailleurs, vous voyez, ça montre que souvent l'humour n'est pas forcément associé au rire, mais aussi au sourire, parce que là, on a plutôt envie de sourire.
En se disant, les autres vont y croire, ils vont mordre à l'hameçon. Je rappelle effectivement que vous avez aussi écrit « Rire, une anthropologie du rieur », avant d'écrire donc ce livre sur le sourire. David Le Breton, c'est, je crois, votre dernière année d'enseignement à Strasbourg. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être rattrapé par la limite d'âge?
Oui, je suis rattrapé évidemment par la limite d'âge. Bon, je suis à la fois triste et heureux de partir, parce que c'est vrai que l'université d'aujourd'hui n'est plus du tout celle que j'ai connue. Et en même temps, ce qui est douloureux, c'est plutôt le temps qui passe. C'est se revoir tout jeune enseignant, arriver dans les couloirs et se dire, bon, c'est extraordinaire, je suis maintenant un enseignant à l'université. Et soudain, vous êtes celui qui s'en va.
Oui, mais celui qui va continuer à faire des tas de choses,
à
aller marcher, parce que vous marchez dans les Vosges, mais vous ne marchez pas que dans les Vosges.
Non.
Vous donnez des conférences vous marchez dans les autres grandes villes
Dans de grandes villes, oui, ou dans d'autres pays, dans d'autres forêts, etc. Oui, non, je continuerai à être éminemment actif, bien entendu.
Dans des villes où vous voyez disparaître petit à petit la place de la voiture, c'est une tendance générale. Vous voyez que vous allez pouvoir encore écrire beaucoup de choses sur cette tendance. Sur le vélo, vous avez écrit aussi un livre sur le vélo. Il y a plein d'ouvrages. En tout cas, je donne le titre du dernier, c'est Sourire, une anthropologie de l'énigmatique. Un très grand merci, David Le Breton, d'être venu ce soir sur France Inter. Merci mille fois.
Merci Claire.